Oui, bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 21 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un sursis et un espoir pour les salariés de Bridgestone. La direction accepte d'ouvrir des négociations durant 5 mois pour tenter de trouver des alternatives à la fermeture du site de Béthune. 2 ministres sont attendus sur place cet après-midi. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Il faudra désormais 3 cas de Covid recensés pour fermer une classe. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles entre en vigueur demain. Un camouflet pour La République En Marche. Aucun des 6 candidats aux législatives partielles n'accède au second tour. Plus encore que l'an dernier, l'Amazonie brûle dans l'indifférence générale. Et puis retour sur la fusée Pogacar qui décroche 3 maillots pour sa première participation au Tour de France.
Invité et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h15, une nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation sur le blanchissement d'argent et le manque de transparence des banques. À 7h50, avec vous Léa Salamé.
Béthune, ce sont ses terres, c'est là où il est né. Il se mobilise pour empêcher à tout prix une fermeture de l'usine Bridgestone. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, est avec nous à 7h50.
Et à 8h20, nous nous retrouvons pour le grand entretien de la matinale avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le standard est ouvert et attend vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
L'espoir d'un plan B pour les salariés de Bridgestone. Après l'annonce brutale mercredi dernier de la fermeture du site de Béthune, la direction du géant japonais du pneu a finalement accepté vendredi de signer un accord de méthode avec les syndicats. Accord qui prévoit 5 mois de négociations. Pour lancer ces discussions, les ministres de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et du Travail, Elisabeth Borne, sont attendus à Béthune cet après-midi. Un espoir donc pour les 863 salariés du site. Maxime Debs.
Tout fait pour éviter ça, la fermeture qui serait une catastrophe. Francky, 28 ans chez Bridgestone, attend plus que de la compassion de la part du gouvernement.
Qui tape du poing sur la table et qui sauve notre emploi. Moi, je vais avoir 50 ans et faire autre chose par la suite, ça va être difficile. Moi, tout ce que je veux, c'est rester ici.
Aujourd'hui, c'est avec une pensée pour ces ouvriers dans l'angoisse de perdre leur job qu'Agnès Pannier-Runacher se rend à Béthune, dit-elle, la ministre déléguée à l'industrie qui, comme eux, a été choquée par la façon de faire.
Ce qui est inadmissible sur le sujet de Bridgestone, c'est de ne pas avoir finalement ouvert la discussion en amont de cette annonce brutale. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les organisations syndicales ont signé un accord de méthode vendredi qui d'abord donne 5 mois à la discussion et qui réouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine.
Par cet accord de méthode, la direction semble être en train de s'organiser dans un processus de négociation, veut croire la ministre. Mais si tel n'était pas le cas, il faudra bien aller au bras de fer, ne pas hésiter pour Jean-Luc Rucbuche de la CGT.
Il y a un moment, si on peut faire pression sur Bridgestone, il ne faut pas se gêner, quoi. Ils ont eu des subventions, hein. Ils ont 1,8 million de subventions de CICE, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, hein. Et c'est bon.
La direction européenne de Bridgestone, qui participera à la réunion de cet après-midi par visioconférence, en présence des élus du territoire.
Bridgestone, premier employeur de cette ville de 25 000 habitants, qui se mobilise. La municipalité de Béthune a mis en ligne une pétition pour demander le maintien du site. Pétition qui avait recueilli hier plus de 37 000 signatures.
Il est 7h04, Agnès. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles entre en vigueur demain.
C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a annoncé hier soir, détaillant les mesures annoncées la semaine dernière par le ministre de la Santé. Désormais donc, pour qu'une classe ferme, il faudra que 3 cas positifs soient signalés. Le but est de limiter le nombre de fermetures en maternelle et primaire. 89 établissements scolaires sont aujourd'hui fermés pour cause de Covid. Sébastien Sabiron.
Pour adapter le dispositif, le ministère de l'Éducation nationale a revu sa définition des cas contacts. Dès mardi, lorsqu'un élève sera testé positif, ses camarades et son enseignant ne seront plus considérés comme cas contacts. Pas de tracing, pas de test systématique, pas de fermeture de classe. Le gouvernement s'appuie sur le dernier avis du Haut Conseil de la Santé publique, selon lequel les enfants sont peu contagieux entre eux. Le Haut Conseil considère que le risque de transmission existe surtout d'adultes à enfants. Malgré tout, les fermetures restent possibles dès lors que 3 élèves de fratries différentes sont confirmés positifs dans une même classe. Ils seront isolés chez eux, puis retourneront à l'école après 7 jours et la fin des symptômes. Avec cet assouplissement, le ministère de l'Éducation nationale espère pouvoir garantir une continuité pédagogique plus stable, de quoi soulager certains parents qui craignaient des fermetures de classe à la moindre rumeur de Covid. Accueil plus frileux, en revanche, pour le SNUIPPFSU. Le premier syndicat du primaire espérait, au vu de la situation épidémique, non pas un assouplissement, mais un renforcement du protocole.
Et c'est l'heure de la rentrée des classes pour les plus petits de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. New York qui, contrairement à d'autres grandes villes américaines, a choisi de faire revenir les enfants en classe plusieurs jours par semaine, malgré l'inquiétude des enseignants et des parents. Reportage à New York de Loïc Louris.
Une veille de rentrée classique, en apparence, un terrain de jeu à Brooklyn sous le soleil, sauf que les parents cogitent sans doute plus que d'habitude en regardant leurs enfants gambader. Philippe, père d'une petite fille, est très inquiet. Les écoles sont des vecteurs, les parents, les professeurs s'y croisent, puis rentrent à la maison. Alors oui, on s'inquiète pour les enfants, les professeurs, les parents, mais aussi toute la ville. Alors, parents et enseignants manifestaient. Quelques jours plus tôt, ils dénoncent pêle-mêle le manque de ventilation ou de professeurs dans les écoles. Djali doit faire sa rentrée aujourd'hui en maternelle.
Si le maire avait fermé les écoles juste une semaine plus tôt, en mars, des milliers de vies auraient été sauvées. On essaye d'éviter une nouvelle vague. On a vraiment peur.
Sentiment partagé par de nombreux New-Yorkais marqués par la mort de près de 24 000 personnes à cause du Covid. Naomi, 4 enfants, les gardera à la maison. Malgré le mauvais souvenir du confinement.
C'est très dur, mais je sais aussi que je veux garder mes enfants en sécurité. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas que ma mère meure si elle est exposée. Et eux ne veulent pas que leur professeur meure.
Comme tant d'autres, elle ne peut pas se permettre les coûts exorbitants de l'enseignement privé où la rentrée a déjà pu avoir lieu. New York, Loïc Louris, France Inter.
Au niveau mondial, la pandémie a fait près de 958 000 morts, plus de 30 millions de cas officiellement recensés. En proportion de la population, c'est le Pérou qui est le pays où la mortalité est la plus élevée, devant la Belgique, l'Espagne, la Bolivie et le Brésil. En France, plus de 10 500 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures avec un taux de positivité qui progresse à 5,7%. 55 départements sont désormais classés en zone rouge. Et puis les premiers des 20 centres de dépistage supplémentaires en Île-de-France vont ouvrir aujourd'hui. 4 à Paris, dans les 4e, 13e, 15e et 19e arrondissements. 2 dans les Yvelines, à Trappes et Mantes-la-Jolie. Et puis 1 dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine. Un petit tour et puis s'en vont pour les candidats de La République En Marche. Des élections législatives partielles avaient lieu hier dans 6 circonscriptions. Résultat, une très forte abstention, autour de 80%, et un message clair adressé au parti présidentiel. Maxence Lambrecq.
Nulle part, La République En Marche n'a réussi à se hisser au second tour. 3% des voix à Colmar, 10 à Alfortville, 18 à Saumur et à Trappes dans la circonscription de la ministre Nadia Hay. 15% pour le candidat En Marche, éliminé d'emblée par une fidèle de Benoît Hamon et un candidat LR. La majorité va donc perdre un siège supplémentaire à l'Assemblée. Un nouveau désaveu, même si les législatives partielles sont toujours difficiles pour le pouvoir en place. Les autres circonscriptions ne devraient pas changer de couleur. La droite en tête à Colmar et Saumur, la gauche loin devant à La Réunion, en Seine-Maritime où le RN se qualifie pour le second tour, et dans le Val-de-Marne à Alfortville où dimanche prochain, il ne sera pas question d'union des gauches, mais d'un duel fratricide entre une candidate socialiste, largement en tête, et la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol. Des écolos qui gagnent du terrain, alors que la participation a été 3 fois moins forte qu'en 2017, les candidats verts ont réuni 2 fois plus d'électeurs dans le Haut-Rhin et le Maine-et-Loire, ce qui les amène au second tour et vient rappeler leur bon score des municipales.
Et puis, grosse désillusion pour Yannick Jadot, dont la motion a été battue par celle du patron des Verts, Julien Bayou. 30% contre 70% hier à l'issue du Conseil fédéral des Verts. Résultat, il n'y aura pas de désignation de candidat écologiste à la présidentielle avant Noël. On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Dans le Gard, 2 personnes restent portées disparues après les intempéries de samedi. Une aide-soignante de 64 ans dont la voiture gît au fond de l'Hérault et un homme parti courir en montagne dans le secteur de Pont de l'Hérault. Côté météo, la pluie a cessé et les cours d'eau ont regagné progressivement leur lit. Et pendant ce temps, la forêt amazonienne continue de brûler. Il y a un an, la question avait été au cœur de l'Assemblée générale de l'ONU avec une passe d'armes entre Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron. Un an plus tard, l'Amazonie brûle plus encore qu'en 2019, mais dans l'indifférence générale, Olivier Poujade.
30% de départs de feu supplémentaires au mois de juillet, une centaine de milliers d'incendies recensés depuis le début de l'année. L'Amazonie se consume tout aussi vite que l'an dernier. Lorsque Jair Bolsonaro répondait aux attaques d'Emmanuel Macron et soulignait que cette forêt n'était pas la sienne. Ce comportement irrespectueux, cet esprit colonialiste, ces attaques sensationnalistes ont réveillé notre sentiment patriotique. L'Amazonie au centre d'une violence
violente passe d'armes entre deux chefs d'État ne semblant pas vraiment s'apprécier.
J'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon. Dire qu'il m'a pas dit la vérité.
Certes, un an après, l'accord UE-Mercosur a du plomb dans l'aile. Ses conséquences seraient néfastes pour l'Amazonie. Mais les Européens ne s'en soucient que pour négocier des accords commerciaux, affirmait il y a quelques jours le vice-président brésilien. Pendant que l'on évoque son avenir, la forêt, elle, continue de brûler. Et elle brûle toujours autant.
Et l'Assemblée générale de l'ONU aura lieu demain. De nouvelles manifestations en Biélorussie hier, malgré les violences policières et l'interpellation de 160 personnes, des dizaines de milliers d'habitants sont descendus dans les rues de Minsk pour protester contre la réélection d'Alexandre Loukachenko au début du mois d'août.
Il est 7h11, retour enfin Agnès sur un podium inattendu à l'arrivée du Tour de France hier sur les Champs-Élysées.
Première participation et première victoire au pluriel pour le jeune Slovène Tadej Pogacar, 22 ans tout juste aujourd'hui, qui décroche le maillot jaune mais également le maillot à poids de meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune coureur. Une surprise pour le public, un prodige, disent ceux qui le suivent depuis ses débuts. Hier sur les Champs-Élysées, il a pu savourer sa victoire avec ses parents qui ont pris l'avion en catastrophe pour vivre ce grand moment avec leur fils, presque encore un adolescent, Kevin Blondel.
Fêté en champion, Tadej Pogacar est d'abord un grand ado qui passe et repasse sur le podium protocolaire meilleur jeune, meilleur grimpeur, meilleur tout court en jaune. Et toujours beaucoup de mal à réaliser.
Every day was awesome.
Chaque jour était extraordinaire, mais les deux derniers étaient encore plus incroyables. Je pense que je me rendrai compte de ce que j'ai réalisé d'ici quelques semaines, mais pour le moment, je me contente de savourer.
Grand champion, d'accord, mais garçon bien élevé surtout, insiste Marietta, sa maman, prof de français en Slovénie. Elle l'observe répondre aux médias, mi-émerveillée, mi-vigilante.
Ce qui me fait encore plus fier, c'est que les gens de son équipe disent qu'il est vraiment un homme, qu'il est très positif, qu'il est très poli, qu'il est très gentil, joyeux toujours. Vraiment, c'est encore plus ce qui me fait fier.
Tadej Pogacar promis à plusieurs victoires sur le Tour de France, d'après de nombreux spécialistes. En tout cas, il va devoir, si c'est le cas, se mettre au français, parce que c'est compliqué de ce point de vue, regrette sa mère.
Quand il était petit, quand il a fait des bêtises, j'ai commencé à parler en français. Et après, il n'a pas voulu apprendre parce que c'était une punition pour lui, voilà.
Tadej Pogacar va donc rentrer en Slovénie en héros, cadeau d'anniversaire idéal, lui qui fête ses 22 ans ce matin, entouré de trophées, de maillots distinctifs de toutes les couleurs et de parents vigilants.
Et puis deuxième sur le podium, l'autre Slovène, Primoz Roglic, et l'Australien Richie Porte, le premier Français, Guillaume Martin, est 11e à plus de 16 minutes du vainqueur.
Merci Agnès Soubiran.